Il est 18h30 en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce lundi 8 avril 2024. À la une de l'actualité ce soir, en République démocratique du Congo, 3 soldats tanzaniens tués par un tir de mortier dans la région orientale, où la situation est de plus en plus volatile, d'après l'ONU. Au moins 97 morts, dont de nombreux enfants, dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé au Mozambique. Washington réaffirme son opposition à toute opération israélienne majeure à Rafah. Une éclipse totale a débuté au Mexique avant d'atteindre les États-Unis et le Canada. La SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe, fait état de la mort de 4 de ses militaires déployés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 3 Tanzaniens tués par un tir de mortier jeudi dernier, le quatrième de nationalité sud-africaine, est décédé à l'hôpital des suites de problèmes de santé, indique la SADC dans un communiqué aujourd'hui, ajoutant que 3 autres soldats tanzaniens ont été blessés. Pour sa part, la mission de l'ONU en RDC décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans cette même région orientale où les combats se poursuivent. La MONUSCO l'a dit dans un message adressé à son personnel au cours du week-end. Rosine Mounezero.
La rébellion du M23 a atteint la périphérie nord de Sake, à une 20aine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, précise la mission onusienne, qui ajoute que d'autres éléments armés ont été repérés dans le parc national des Virunga et menacent de couper la route Goma-Sake. Le message de la MONUSCO contient également des consignes de confinement et d'évacuation à destination de son personnel à Goma, ainsi qu'une carte de rassemblement en cas de détérioration aiguë de la situation. Jeudi, les troupes indiennes de l'ONU déployées autour de Sake pour empêcher la progression des rebelles vers Goma ont abandonné leur position contre l'avis de leur hiérarchie, selon la MONUSCO. Dimanche matin, des milices supplétives des forces armées de la RDC ont ouvert le feu contre des casques bleus dans la périphérie de Sake, a rapporté la mission. Goma, qui compte plus d'1 million d'habitants et près d'1 million de déplacés, est encerclée par la rébellion du M23 depuis février et l'intensification des affrontements. Les seules voies de sortie sont le lac Kivu au sud et la frontière rwandaise à l'est.
Les recherches se poursuivent ce lundi au large du Mozambique pour retrouver des passagers après la mort d'au moins 97 personnes dans le naufrage d'un bateau de pêche surchargé suite à des rumeurs sur une épidémie de choléra. De nombreuses familles paniquées s'y étaient précipitées. Claire Morin-Gibourg.
L'embarcation s'est trouvée en difficulté hier dimanche en début de soirée alors qu'elle transportait près de 130 personnes, dont de nombreux enfants, et qu'elle se dirigeait vers une petite île située au large de la province septentrionale de Nampula. Surchargé, le bateau a chaviré après avoir pris l'eau. 6 corps supplémentaires ont été repêchés aujourd'hui, dont ceux de 3 enfants. Il n'y a que 12 rescapés, alors que le nombre de disparus est encore incertain. La plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur une épidémie de choléra qui ont semé la panique. Le Mozambique a enregistré près de 15 000 cas de cette maladie transmise par l'eau souillée et 32 personnes en sont mortes depuis octobre selon les chiffres officiels. La province de Nampula est la plus affectée, concentrant un tiers des cas.
Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a achevé en Côte d'Ivoire aujourd'hui sa première tournée africaine qu'il a menée au Kenya et au Rwanda. Évoquant les bons résultats de l'économie ivoirienne depuis une décennie, Stéphane Séjourné a mentionné le rôle de la Côte d'Ivoire dans la stabilité au niveau régional. Nous continuerons à œuvrer avec vous pour cette stabilité, a-t-il poursuivi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont réaffirmé avec force ce lundi leur opposition à toute opération israélienne majeure à Rafah, à Gaza, au moment où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit avoir fixé une date. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur ses civils et qu'elle nuirait, en fin de compte, à la sécurité d'Israël, a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'État. Les responsables israéliens et du Hamas ont tempéré ce lundi les espoirs d'une trêve prochaine et d'une libération des otages retenus dans la bande de Gaza. De nouvelles négociations indirectes au Caire n'ont pas permis de surmonter les blocages. Yacouba Boudraougou.
Nous ne voyons pas encore d'accord à l'horizon, a déclaré un responsable israélien cité par le média Inet, soulignant que la distance restait importante entre les positions de part et d'autre. Il faut être patient, il y a un potentiel, mais nous n'y sommes pas, à ajouter un haut responsable israélien. Selon un responsable du Hamas, on ne peut pas parler de progrès concret jusqu'à présent et les divergences portent surtout sur le retour des déplacés dans la ville de Gaza réclamée par le mouvement islamiste. Selon le média égyptien pro-gouvernemental Al-Qaïra News, les délégations du Qatar et du Hamas sont parties du Caire et y reviendront sous deux jours pour finaliser les termes de l'accord et les délégations américaines et israéliennes devaient elles aussi quitter la capitale égyptienne. Samedi, le Hamas a assuré qu'il ne renoncerait pas à ses exigences, un cessez-le-feu complet, un retrait israélien de Gaza, un retour des déplacés et un accord sérieux d'échange d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rétorqué dimanche qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans la libération de tous les otages.
Les pourparlers au Caire ont été sérieux, mais il est trop tôt pour dire s'ils vont porter leurs fruits, selon la Maison-Blanche. La situation actuelle est la suivante. Une proposition a été présentée au Hamas et nous attendons la réponse du Hamas, a fait savoir aujourd'hui John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Maintenant, il revient au Hamas de la concrétiser, a-t-il déclaré, refusant de révéler des détails de cet accord pour ne pas le torpiller. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de novembre, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés par déclarations interposées sur la question de l'avortement. Le républicain Trump a dit aujourd'hui vouloir laisser la main libre aux États américains pour légiférer. Trump s'est empêtré, a pour sa part déclaré le démocrate Biden. Davantage avec Mohamed Oumfa.
Les États détermineront par vote ou par une loi, ou peut-être les deux. Quelle que soit leur décision, elle doit avoir force de loi, a déclaré Donald Trump dans une vidéo de 4 minutes publiée sur sa plateforme Truth Social. Beaucoup d'États auront un nombre différent de semaines, comme durée limite de grossesse pour un avortement, a exposé le républicain dans sa vidéo. Certains seront plus conservateurs que d'autres, et c'est comme ça. Au bout du compte, c'est la volonté du peuple qui compte, a-t-il ajouté. M. Trump a également accusé les démocrates d'être en faveur de l'avortement jusque dans les derniers mois de grossesse et même une exécution après la naissance. Pour Joe Biden, à travers un communiqué de son équipe de campagne, Trump s'est empêtré. Donald Trump craint que les électeurs lui fassent rendre des comptes à la présidentielle à cause de sa responsabilité dans la fin de la garantie fédérale du droit à l'avortement, a avancé Joe Biden. Eh bien, j'ai des nouvelles, Donald, ce sera le cas, a-t-il dit. Depuis la décision de la Cour suprême de juin 2022, redonnant aux 50 États toute latitude pour légiférer dans ce domaine, une vingtaine d'États ont interdit ou sévèrement restreint l'accès à l'interruption volontaire de grossesse.
Je vous le disais en titre, une rare éclipse totale a commencé ce lundi sur la côte ouest du Mexique, tandis que la NASA lançant le début d'un événement céleste attendu par des millions de personnes et dont le trajet doit également traverser les États-Unis avant de s'achever au Canada. De multiples rassemblements sont organisés dans ces trois pays pour admirer la Lune, recouvrir le Soleil, durant quelques minutes au maximum, en fonction du lieu d'observation. Au total, l'ombre de la Lune parcourra sa trajectoire au-dessus de l'Amérique en environ 1h30. Le ministre iranien des Affaires étrangères a inauguré ce lundi un nouveau consulat iranien à Damas, une semaine après la frappe imputée à Israël qui a détruit la section consulaire dans la capitale syrienne. Le nouveau consulat a été inauguré par Hossein Amir Abdullahian en présence de son homologue syrien Faisal Megdad. Il est situé à quelques dizaines de mètres du consulat détruit dans le quartier de Mazé qui abrite des ambassades et les bureaux de l'ONU. Le raid, le 1er avril, avait détruit le consulat iranien et tué 16 personnes, dont 7 membres du corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, parmi lesquels 2 hauts gradés. Des inondations inédites dans les régions russes de l'Oural et en Sibérie occidentale ont entraîné ce lundi des manifestations d'habitants dans la ville d'Orsk, la plus touchée par ce désastre d'une ampleur pas vue depuis des décennies. Ces inondations ont été engendrées ces derniers jours par de fortes pluies associées à une hausse des températures, la fonte accrue des neiges et la débâcle des glaces hivernales recouvrant rivières et fleuves. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao continuent de s'inquiéter. Une nouvelle semaine de faibles précipitations et de températures élevées dans la plupart des principales régions productrices de cacao pourraient réduire la taille de la récolte d'avril à septembre, ont déclaré les agriculteurs ce lundi. Les cacaoculteurs espèrent au moins une forte averse au cours des 10 prochains jours afin d'éviter que les haricots ne soient petits et de mauvaise qualité en juin et juillet. Le Cameroun a lancé vendredi dernier sa campagne agricole 2024 dans la partie méridionale du pays dans un contexte de vagues de chaleur néfastes pour les rendements agricoles et pour le secteur de l'élevage. Le ministre camerounais de l'Agriculture, Gabriel Bérobé, a encouragé les agriculteurs. Vous faites du Cameroun un pays où les populations mangent à leur faim, a-t-il déclaré. Washington n'acceptera pas le déferlement de produits chinois vendus à perte sur le marché mondial, comme cela est déjà arrivé par le passé, a affirmé ce lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, en déplacement en Chine.
Et maintenant la page sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Football avec les quarts de finale retour des matchs interclubs de la CAF.
Oui, en Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive de Berkane a tenu jusqu'au bout pour retrouver les demi-finales. Dans un match à rebondissement, le club marocain s'est imposé dans les dernières minutes face au Libyen d'Abou Salim, 3-2 grâce au but du capitaine burkinabé des Marocains Issoufou Dayo. Le point avec Amine Birouk, notre correspondant à Casablanca.
Après avoir fait le dos rond, il s'en est fallu d'une longue touche, d'un moment de fébrilité, d'inattention pour que le club libyen puisse ouvrir le score à partir de la 55e minute. L'égalisation de Paul-Valéry Bassen, le deuxième but de Tahrif, et on croyait que Berkane était à l'abri. Eh bien non, sur une nouvelle touche, copier-coller, un moment d'inattention et une reprise de volée à 10 minutes de la fin, puis sur un dernier assaut, un dernier centre, à la 107e minute, une tête du capitaine, le valeureux Issoufou Dayo a permis à la Renaissance sportive de Berkane de passer par le trou de la serrure in extremis.
En demi-finale, la Renaissance sportive de Berkane va affronter le tenant du titre, l'USM Alger, vainqueur 2-0 des Nigériens du Rivers United. L'autre demi-finale va se jouer entre les Amalek du Caire et les Ghanéens du Dreams FC, qui ont écarté le stade malien de Bamako.
En Ligue des Champions, le tenant du titre est bel et bien en demi.
Les Égyptiens d'Al-Ahly se sont imposés 2-0 devant les Tanzaniens de Simba. Ça passe aussi pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qui ont sorti l'autre club tanzanien, les Young Africans. Mais au tir au but, 3 tirs réussis contre 2 à l'issue d'un match à polémique. Qualification aussi du tout-puissant Mazembe renversant Luanda devant le Petro Atlético, battu 2-1. Ça ne passe pas par contre pour l'ASEC d'Abidjan. Les Mimos ont été sortis au tir au but, 4 tirs réussis contre 3 par l'Espérance de Tunis après le double 0-0 à l'aller comme au retour. En demi-finale, gros choc attendu entre Al-Ahly du Caire et le tout-puissant Mazembe d'une part et les Mamelodi Sundowns feront face à l'Espérance de Tunis d'autre part. Les matchs aller auront lieu le 19 avril et ce retour une semaine plus tard.
Ici en NBA, Minnesota reprend les commandes à l'ouest.
Les Timberwolves se repositionnent au premier rang de la conférence ouest devant Denver et Oklahoma City troisième grâce à leur victoire sur le parquet des Lakers. 127-117, Golden State a en effet assuré sa présence en play-in grâce à sa victoire contre le Jazz 118-110. L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, a réussi un comeback en dominant Cleveland 120-118. À l'Est, le suspense pour la première place est inexistant et Boston premier a même glané dimanche son 62e succès de la saison face à Portland 124-107. Derrière, en revanche, la lutte est chaude. Milwaukee, deuxième, a perdu 122-109 son 4e quatrième match d'affilée face aux New York Knicks. Orlando, troisième, s'est imposé à domicile contre Chicago, 113-98, tout comme Philadelphie, septième, qui a toutefois eu besoin de deux prolongations, 133-126 finalement. Le Heat, lui, a fait une mauvaise opération en s'inclinant, 117-115, à Indianapolis face aux Pacers.
Merci bien, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce lundi 8 avril 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Cameroun, la mairie de Yaoundé vient de donner le coup d'envoi à de grands travaux de réhabilitation de certains tronçons routiers et carrefours névralgiques de la capitale. Ces travaux font suite au ras-le-bol de la population face à la dégradation avancée de la voirie municipale. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julenta.
Au quartier Emombo, dans le 4e arrondissement, les habitants ont exprimé ces dernières années leur mécontentement au sujet de la dégradation avancée de certains tronçons. La mairie de Yaoundé y a finalement entrepris des travaux de réhabilitation. Jean Akono est élève et réside au quartier Mombo.
Ça va nous aider beaucoup. La route était gâtée. On n'arrivait même pas à bien marcher. Avec le soleil aussi, il y avait trop de poussière. Et ça nous étouffait. Là, maintenant, avec les travaux, ça va s'améliorer. On espère bien.
Depuis le début de l'année, en marge de la réhabilitation de certains axes routiers, la mairie de Yaoundé entend également reconstruire certaines gares routières et carrefours où l'on enregistre les encombrements à la circulation. Adalbert Bessala est un jeune cadre de banque.
Nous espérons que cela ne va pas rester simplement dans le cadre de certains quartiers qui seraient peut-être privilégiés ou certaines artères qui seraient privilégiées que d'autres. Parce que finalement, toutes les rues de Yaoundé se ressemblent. Que vous soyez à Yaoundé 4e, que vous soyez à Yaoundé 5e ou à Yaoundé 6e. Donc, le mal est le même. Et donc, nous espérons évidemment qu'ils vont faire quelque chose de durable. Parce qu'au Cameroun, là, il faut le dire, ce genre d'occasion, c'est également une porte d'entrée pour certains de pouvoir s'enrichir. Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas faire le travail qu'il faut pour que demain, après-demain, ou de 2 ou 3 ans, on les appelle encore pour qu'on leur donne de l'argent.
Ailleurs, certains résidents de Yaoundé ne dissimulent pas leur colère au sujet de la dégradation avancée de la voirie urbaine.
Nous sommes au quartier Tropicana. Depuis que le président ne passe plus cela, la route a été abandonnée.
Anissé Amara est commerçant au lieu dit Carrefour Tropicana, dans le 4e arrondissement. À cet endroit, les voitures circulent difficilement en raison de nids de poules.
Donc quand ils viennent, ils mettent le gravier, ils mettent le béton sur le bouton. Donc, tout est à refaire. C'est vous, vous regardez, il y a les inondations, l'eau traverse la route à tout moment, les rigoles sont bouchées.
Adamo Bakari, un conducteur de moto-taxi, raconte quant à lui sa mésaventure liée au mauvais état des routes à Yaoundé.
Il a appelé vers 18h21h. Même quand je suis arrivé à la fosse centrale, là, même là, j'avais la moto. Je suis entré jusqu'à même dans l'eau. Ça inondait la moto.
Certains travaux de réhabilitation des tronçons routiers vont être livrés en juin prochain, selon le maire de la ville de Yaoundé qui a récemment entrepris la visite de ces chantiers. Luc Messi Atangna, maire de Yaoundé.
Allez donc descendre sur le terrain, voir si ces chantiers, après le lancement, ont eu une continuation au niveau des travaux et voir aussi le niveau d'avancement de ces travaux ainsi que leur qualité.
Le 27 octobre 2023, face aux plaintes des populations, Joseph Dion Gouté, Premier ministre, avait ordonné, à l'issue d'une réunion interministérielle, des travaux d'urgence dans la capitale. Yaoundé, Emmanuel Junta. VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Trois décennies de reconstruction, le Rwanda marque depuis hier le 30e anniversaire du génocide des Tutsis. Trois mois d'horreur dont l'ombre plane toujours sur ce pays de l'Afrique des Grands Lacs, malgré un inlassable travail de réconciliation. À Kigali, de jeunes artistes et des étudiants en école d'art produisent en dessin de vieilles photos de victimes. Une façon de proposer un regard nouveau sur l'histoire de leur pays. Blanche Sanou nous en dit davantage.
Dans cet atelier de la capitale rwandaise, jeunes artistes et étudiants en école d'art dessinent sur leurs tablettes et leurs carnets reproduisant avec soin portraits et photos de famille venues d'une époque révolue.
King Gabo est un artiste à l'origine de l'initiative Art for Memories.
Nous invitons les gens à nous envoyer les images de leurs êtres chers par mail, sur les réseaux sociaux, par WhatsApp. Et puis avec ces photos abîmées, nous les traitons au studio et nous les ramenons à la vie.
30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, Aliette a pour seul souvenir de ses proches disparus quelques photos défraîchies. Pour faire vivre leur mémoire et leur visage, elle est venue dans un atelier d'artistes de Kigali remettre des clichés au collectif Art for Memories qui va les reproduire en dessin.
Écoutons Aliette Nirabimana, une rescapée du génocide.
Ce sont les photos de mes parents et de ma grande sœur qui ont été tuées pendant le génocide. J'aimerais bien qu'on me dessine ces photos pour que je puisse les garder avec moi.
La plupart des artistes du projet, comme plus de 70% de la population rwandaise qui est âgée de 30 ans ou moins, n'a pas connu le génocide. Avec leur travail et au contact de ceux qui viennent leur confier leurs précieux souvenirs, ils découvrent de nouvelles facettes de la tragédie.
À nouveau, Aliette Nirabimana, une rescapée du génocide.
Mes enfants me demandent souvent quand leur grand-mère a été tuée. Ils me posent beaucoup de questions sur ce qui s'est passé avec la famille. Alors voir les dessins à la maison leur permettra de se faire une image de ces personnes, comme ma grande sœur qui a été tuée avant qu'elle ne se marie ou puisse avoir des enfants.
Pour cette génération post-génocide, c'est aussi l'occasion de réhabiliter leur art qui a été, avec les médias, un outil de propagande utilisé pour semer la haine contre la minorité Tutsi.
Moussio Martin est un illustrateur indépendant.
Durant le génocide, les artistes de l'époque utilisaient le dessin pour répandre leur idéologie du génocide. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes artistes qui faisons aussi du dessin, on a décidé de corriger cela.
Depuis son lancement en avril 2023, le collectif a bénévolement réalisé environ 450 portraits de victimes du génocide de 1994 qui a fait environ 800 000 morts, majoritairement Tutsis.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Le président américain Joe Biden a promis vendredi dernier de remuer ciel et terre pour reconstruire le pont qui s'est effondré fin mars à Baltimore comme un château de cartes faisant 6 morts. Profitons-en pour braquer les projecteurs sur les entrepreneurs africains qui vivent et travaillent dans cette grande ville de l'État du Maryland. Face à des défis récents tels que l'effondrement du pont Francis Scott Key, les récits de ces hommes et de ces femmes d'affaires mettent en lumière leur esprit d'innovation et de communauté. Sims Loumami a rencontré quelques-uns d'entre eux. Son reportage est relaté par Gabi Dorsil.
Situé dans la région centrale de l'État du Maryland aux États-Unis, Baltimore est une ville qui attire de nombreux entrepreneurs africains, contribuant ainsi à enrichir son paysage économique et culturel. Bertil Akobaseka, une mère au foyer burundaise, met en avant les défis et les opportunités auxquelles sont confrontés les immigrants à Baltimore.
Ce qui prend pour vivre à Baltimore, c'est le courage et puis de rester en dehors de problèmes avec surtout la police. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout pour les immigrants, pour les mamans et les enfants, ce qu'on appelle aussi les single mothers. Il y a beaucoup d'opportunités à Baltimore.
Au cœur de Baltimore, le restaurant Roti Rotisserie propose un mélange de saveurs d'Afrique de l'Ouest et de cuisine française. Les copropriétaires Amanda Burton, une afro-américaine d'origine libérienne, et son mari Joseph Burton ont transformé leur expertise en matière d'hospitalité et leur riche héritage en une célébration de la restauration et de la culture.
Mon mari et moi avons étudié l'hôtellerie à l'université du Maryland, Eastern Shore. Nous sommes donc tous deux des professionnels de l'hôtellerie. Nous avons tous deux travaillé dans ce secteur à Baltimore pendant plusieurs années, jusqu'à la pandémie où nous avons tous deux été mis à pied. Ma famille est libérienne, je suis donc originaire d'Afrique de l'Ouest. Ici, nous combinons notre expérience avec les techniques françaises de mon mari, ce qui nous permet de créer le menu et la cuisine du restaurant.
Malgré les possibles conséquences de l'effondrement du pont Francis Scott Key de Baltimore, Joseph Burton reste déterminé à soutenir l'approvisionnement local.
Je pense que certains seront touchés, notamment en ce qui concerne la production des différents objets en plastique et d'autres choses qui pourraient avoir une incidence sur l'activité. Mais j'essaie de rester local dans le Maryland pour ce qui est de l'achat de mes produits et de mes protéines. Je ne pense donc pas que le monde m'affecte directement parce que j'essaie de rester local autant que possible.
Au cœur de la scène artistique de Baltimore se trouve Robert William, propriétaire de la galerie Umri Siki New Day. Sa collection va bien au-delà des sculptures complexes et des peintures captivantes habituelles. Chaque pièce de sa galerie représente non seulement de l'art, mais aussi un portail vers les histoires, les traditions et l'essence spirituelle du continent africain.
J'ai commencé à travailler dans ce domaine en fréquentant un ami musicien. Je suis musicien. Il allait aux ventes aux enchères. Il a acheté un bac de ventes aux enchères avec beaucoup d'objets africains et j'ai commencé à m'y intéresser. Mais les affaires sont très lentes. Les gens ne comprennent pas bien ce que je fais ici. Il s'agit d'un type d'activité différent. Le commerce de l'art est différent.
Pour Robert et tant d'autres entrepreneurs comme lui, c'est une chose spirituelle que de vendre des objets d'art. Il est souvent mal compris, néanmoins il persiste et promeut l'art et la culture d'un continent qu'il n'a même pas visité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nous restons aux États-Unis où l'équipe de campagne de l'ancien président Donald Trump a effectué samedi une nouvelle levée de fonds record. Dans un entretien accordé à la VOA, l'équipe du président Joe Biden a minimisé cette opération. Des analystes sont d'avis que l'argent seul ne garantira pas la victoire de l'un ou de l'autre candidat à la présidentielle de novembre. Le reportage de Véronica Balderas Iglesias est relaté par Mohamedou Oumfa.
Établissant un nouveau record de collecte de fonds en un seul événement, l'équipe de campagne de Donald Trump a récolté 50,5 millions de dollars samedi lors d'un gala réunissant de riches donateurs à Palm Beach en Floride. Dès son arrivée sur les lieux, l'aspirant candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump, s'est dit pleinement confiant dans la réussite de l'événement.
Les gens veulent contribuer à une cause, celle de rendre à l'Amérique sa grandeur. Les riches le veulent, les pauvres le veulent, tout le monde veut du changement. Le pays va vraiment mal. Nous sommes la risée du monde entier et nous voulons changer cela très rapidement.
L'équipe du président démocrate Joe Biden, qui est candidat à sa réélection, a également publié ses derniers chiffres de collecte de fonds au cours du week-end. Le porte-parole Kevin Munoz a déclaré dimanche à la VOA que 1,6 million d'Américains avaient apporté des contributions précieuses. Il a expliqué comment la campagne allait dépenser les 192 millions de dollars de liquidités dont elle dispose.
Plus d'une centaine de bureaux dans les États disputés, des centaines d'employés sont déployés dans ces États. Une campagne médiatique historique de 30 millions de dollars ciblant les électeurs des minorités latinos et afro-américains qui définissent l'issue de cette élection.
M. Munoz a également minimisé les derniers résultats de Trump en matière de collecte de fonds.
Les principaux donateurs de la campagne de Joe Biden sont les infirmières et les enseignants. Nous sommes soutenus par les travailleurs, ce qui contraste fortement avec la campagne de Donald Trump. Et c'est ce qui permettra de gagner les élections.
Mais l'argent ne suffira pas à assurer la victoire de Biden ou de Trump, soulignent les analystes. Mark Hansen est professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago. Il s'est entretenu avec la VOA via Skype.
Le plus gros problème auquel le président Biden est confronté actuellement est un certain nombre de fractures au sein de son propre parti et le fait d'atteindre des personnes indépendantes, des gens qui sont peut-être des républicains mécontents.
Stephen Schmidt, professeur de sciences politiques à l'Université d'État de l'Iowa via Skype.
Trump a une base solide, des personnes très enthousiastes, engagées et passionnées, mais les chiffres ne montrent pas que la base s'est élargie.
L'équipe de campagne de Trump n'a pas répondu à une demande d'interview de la VOA, mais sur son site internet, elle annonce un rassemblement de Trump en Pennsylvanie le 13 avril. L'agenda de Joe Biden s'annonce également chargé cette semaine. Son équipe organisera une collecte de fonds à Chicago, a précisé M. Munoz sans plus de détails. Il va également s'occuper d'affaires nationales et internationales tout au long de la semaine, comprenant une visite du Premier ministre japonais.
Et Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 8 avril 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.